VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, les gardes-côtes de la région du Puntland dans le nord de la Somalie menacent des pirates ayant détourné un tanker de lancer un assaut si ces derniers refusent de libérer le navire et son équipage sri-lankais. C'est ce qu'annonce ce jeudi la police de cette région somalienne semi-autonome. Des hommes armés ont attaqué lundi ce pétrolier battant pavillon des Comores et l'ont détourné vers la pointe de la Corne de l'Afrique. Il s'agit du premier détournement d'un navire commercial par des pirates somaliens depuis 2012. En Libye, plusieurs groupes armés ont signé un accord de cessez-le-feu à Tripoli sous l'égide du gouvernement libyen d'Union nationale GNA après 4 jours de combats ayant paralysé la capitale. Selon le communiqué en ce sens du ministère libyen de la Défense aujourd'hui, l'accord prévoit un cessez-le-feu immédiat à Tripoli, le départ des groupes armés de la capitale dans un délai de 30 jours, ainsi que la libération des personnes arrêtées durant les 4 derniers jours. L'accord a été signé par le GNA, les ministères de la Défense et de l'Intérieur et les chefs des groupes armés de Tripoli et Misrata. Misrata est une ville de l'ouest libyen d'où sont originaires plusieurs groupes armés présents dans la capitale. Au Nigeria, incursion des combattants du groupe djihadiste Boko Haram hier soir à Magoumeri, ville située à une 50 kilomètres de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno dans le nord-est du pays. Les assaillants ont pillé et incendié des maisons et emporté toute la nourriture qu'ils ont trouvée, a déclaré à l'AFP un habitant, Koulo Shérif, qui a réussi à s'échapper et à regagner la ville ce matin. Selon Babakoura Koulo, un membre des milices civiles sur place, les forces de sécurité dans une base militaire et un commissariat de police de Magoumeri se seraient rendus après avoir été attaqués par les djihadistes. Mais l'armée nigériane assure pour sa part avoir repoussé les assaillants, neutralisé un grand nombre d'entre eux et confisqué de grandes quantités d'armes et de munitions. Au Rwanda, 44 musulmans rwandais accusés de terrorisme et arrêtés après que la police eut abattu début 2016 un religieux musulman soupçonné de recruter pour le groupe État islamique ont comparu hier devant la haute cour de Kigali. Les précisions de John Lyndon.
La justice rwandaise n'a pas publié d'acte d'accusation pour ces 44 hommes et femmes, parmi lesquels figurent quelques mineurs. Augustin Kabeya, un de leurs avocats, a indiqué que si les charges diffèrent d'un accusé à l'autre, elles sont toutes liées au terrorisme. À ce jour, aucune attaque terroriste djihadiste n'a été recensée sur le territoire rwandais. Mais les autorités avaient assuré en janvier 2016, sans en apporter la preuve, avoir détecté la formation des réseaux terroristes et plusieurs interpellations avaient suivi. Ces accusations avaient fait suite à la mort en janvier 2016 d'un religieux musulman soupçonné de recruter des jeunes pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Hier, lors d'une des rares audiences publiques depuis le début de cette affaire sensible, les juges ont décidé de repousser l'ouverture du procès au 4 avril après l'avoir déjà reporté précédemment, la défense demandant plus de temps pour prendre connaissance du dossier d'accusation.
Un autre procès en Afrique, en Côte d'Ivoire, les avocats de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, demandent la reprise totale du procès. Plus de détails avec Orzuma Compaoré.
L'équipe de la défense de Mme Gbagbo a quitté le tribunal mercredi après avoir, pendant une heure, dénoncé l'irrégularité de la constitution de la cour. Ils estiment que l'un des assesseurs avait été remplacé sans respecter le mode de désignation. Des griefs que le président de la cour d'assises, le juge Kouadjo Bouagui, a rejetés, faisant valoir que l'irrégularité de la cour d'assises ne peut être constatée que par la cour suprême. L'audience a été ajournée à mardi. Une nouvelle fois, l'ancienne première dame était absente du tribunal. Madame Gbagbo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier d'Abidjan durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime. Ses avocats ont été commis d'office après le retrait de ses conseils. Mardi, le procureur général Ali Yeo les a accusés de vouloir saboter le procès.
Au Bénin, le Parlement béninois doit examiner prochainement un projet de réforme constitutionnelle voulu par le chef de l'État. Mais le flou qui entoure le texte suscite la polémique. Parmi les mesures phares annoncées, limitation à un mandat présidentiel unique, création d'une Cour des comptes et meilleur encadrement du financement des partis politiques. Le président Patrice Talon s'est dit conscient que toucher la Constitution fait l'objet de beaucoup d'inquiétudes et de soupçons. Mais il a affirmé que des retouches techniques sont nécessaires pour faire évoluer la démocratie béninoise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les variations climatiques en Afrique australe, de l'Ouest et de l'Est ont contribué aux mauvaises récoltes ces dernières années, donc à une flambée des prix des denrées alimentaires. Toutefois, selon les spécialistes, d'autres facteurs jouent également dans cette situation. Les précisions de Michel Joseph.
Godfrey Nwosu dirige la Fédération nigériane des agriculteurs. On est tenté, dit-il, d'imputer la hausse des prix des denrées alimentaires à la sécheresse qui sévit dans le bassin du lac Tchad. Toutefois, l'inflation, la hausse des prix du carburant, des taxes douanières élevées sur les équipements agricoles y contribuent également, estime-t-il. À cela, il faut ajouter la corruption, le manque de lois fortes en faveur du monde agricole et aussi le peu d'attrait que présente l'agriculture pour les jeunes chercheurs d'emploi, fait remarquer Godfrey Nwosu.
Les jeunes sont encouragés à s'engager dans l'agriculture, mais la plupart cherchent des emplois de bureau. La hausse des prix du carburant et d'autres produits contribue à son tour à faire monter les prix denrées alimentaires.
Les agences humanitaires ont récemment tiré la sonnette d'alarme au sujet de 16 millions de personnes menacées de famine à cause de la sécheresse en Afrique de l'Est. L'ONU a déclaré la famine dans certaines régions du Soudan du Sud et attiré l'attention sur la situation en Somalie. Après plus d'une année de pluviométrie insuffisante en Afrique australe, les agriculteurs de cette région s'attendent à de bonnes récoltes. Si la sécheresse a été le principal problème, celle-ci a mis à nu le manque de développement du secteur agricole, explique Paul Makoube, économiste agricole à la First National Bank d'Afrique du Sud.
C'est au fond la loi de l'offre et de la demande. Mais l'autre explication de l'irrégularité de la production agricole a trait à la non-adoption des technologies qui pourraient aider en cas de sécheresse.
L'économiste Jonathan Pound de la FAO note les efforts déployés par certains pays contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Le Kenya a supprimé les droits de douane sur les importations de maïs. Le Zimbabwe a réduit les taxes sur les denrées alimentaires. D'autres pays ont mis sur le marché leurs réserves stratégiques pour faire baisser les prix. Toutefois, il y a un équilibre à établir, met en garde Jonathan Pound.
Il y a deux perspectives ici. Les prix doivent être abordables pour les consommateurs, mais en même temps, assez attractifs pour que les agriculteurs puissent produire et dégager des bénéfices.
Godfrey Nwosu, de la Fédération nigériane des agriculteurs, dit que son gouvernement doit en faire plus pour soutenir les agriculteurs et réduire leurs dépenses.
Actualité aux États-Unis maintenant, un juge fédéral de Hawaï a mis un coup d'arrêt mercredi au second décret du président Donald Trump sur l'immigration à la veille de son entrée en vigueur ce jeudi matin. Le nouveau décret signé le 6 mars visait à remplacer la première ordonnance adoptée en janvier qui avait fait l'objet d'une mesure de suspension en février par un juge fédéral de l'État de Washington. Le point avec Jean-Roger Bion.
À quelques heures seulement de l'entrée en vigueur du nouveau texte, qui avait pourtant été expurgé de ses éléments les plus contestés, le magistrat de Hawaï, Derek Watson, a estimé dans son jugement que la suspension temporaire du décret éviterait un préjudice irréparable. Tenant une réunion publique à Nashville, dans le sud, le président américain a dénoncé la décision erronée d'une justice qui, selon lui, commet ainsi un abus de pouvoir sans précédent. Il a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. Pour expliquer sa décision, le juge Watson s'appuie notamment sur plusieurs déclarations de Donald Trump à l'égard des musulmans pour conclure que le décret comporte des preuves significatives et irréfutables d'animosité religieuse. Sa décision fait référence à des propos de campagne de Donald Trump lorsqu'il s'était prononcé pour une interdiction d'entrée des musulmans sur le territoire américain. le texte controversé qui bannit l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 6 pays musulmans devait être appliqué à partir de mercredi à minuit, heure de Washington, soit jeudi 4 GMT. Deux autres audiences se sont également déroulées mercredi au Maryland et dans l'État de Washington qui ont donné lieu à de vives joutes sur ce décret migratoire.
Pour terminer football en Afrique, le malgache Ahmad Ahmad remplace le Camerounais Issa Hayatou à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.